Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Patrick Cohen-Hacknin. Bonjour.
Bonjour.
Je reçois notamment à l'occasion de la parution d'un disque magnifique, Les Folies Françaises, consacré à François Couperin, Portrait croisé. En fait, Les Folies Françaises, c'est l'ensemble, mais c'est aussi une œuvre de Couperin. Donc, c'est la raison d'être au départ de votre ensemble, que cet hommage à Couperin.
Oui, disons que... On cherchait un nom et c'est vrai qu'on, comme on adorait ce compositeur, qui est peut-être pas si connu, si joué, donc ben voilà, on a souhaité prendre le nom d'une de ses pièces pour lui rendre hommage. Et puis ça nous correspondait bien au niveau des caractères, des couleurs. C'est une pièce très très colorée, très imagée. Et, voilà. Et puis l'esprit aussi de la musique de chambre, de pouvoir orchestrer les pièces, choisir, voilà, on met plutôt une flûte, plutôt un hautbois, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup dans la pratique de la musique ancienne.
Vous parlez d'orchestration, alors ce disque qui est paru chez Nomad Musique, il mêle des œuvres pour clavecin seul, des œuvres de musique de chambre, des œuvres plus orchestrales, portrait croisé, vous vouliez faire quoi, un autoportrait de votre ensemble, le mêler à celui de Couperin?
Oui, tout à fait. Au départ, c'était rendre hommage évidemment à François Couperin pour son 350e anniversaire, mais aussi faire un portrait de notre ensemble, les Folies Françaises, et de montrer un peu les différents caractères des musiciens. Évidemment, au centre, le clavecin avec Béatrice Martin, mais également la flûte avec Jocelyn d'Aubigné, des couleurs plus italiennes avec la sonate La Piémontaise avec deux violons, un peu en hommage à Corelli aussi, parce qu'on avait fait un disque Corelli il y a quelques années, avec mon collègue Benjamin. Voilà, enfin, différentes couleurs, du hautbois évidemment, qui est un instrument très français qui était... qui était utilisé pour ses concerts, notamment les concerts royaux à la cour de Louis XIV.
Alors vous parlez d'orchestration, alors par exemple ça s'ouvre par une œuvre assez majestueuse, l'Ego réuni, le 8e concert dans le Goût théâtral avec une ouverture assez somptueuse, Patrick Cohen-Hacknin. Au niveau de l'instrumentation, qu'est-ce qui est écrit dans ces parties?
Bah rien. Il y a deux portées, trois, parce qu'il peut y avoir aussi une pièce en trio, ce qui est le cas de la seconde pièce. En fait, il n'a pas laissé, il n'a pas proposé d'instrumentation. On sait avec quel musicien il jouait, donc il nous dit qu'il jouait avec un violon, une flûte, un hautbois pour le dessus, donc c'est ça qui a guidé évidemment notre choix. La viole de gambe nous paraît évidemment essentielle pour la basse continue. Le clavecin, on a rajouté le théorbe, c'est pas certain qu'il y avait toujours du théorbe, mais ça permet aussi des couleurs, certaines douceurs, et puis aussi de rajouter la guitare, par exemple, sur certaines pièces, donne une dynamique qui est assez intéressante. Mais l'idée, c'est de colorer les pièces, de leur donner des saveurs, des couleurs, et c'est très amusant, en fait, à faire et à choisir avec les musiciens. Évidemment, on se retrouve beaucoup à l'unisson, notamment avec tous les agréments notés dans la partition par François Couperin. Bah, ça devient assez délicat à jouer à l'unisson, mais c'est tout l'intérêt du travail de cette musique.
Oui, mais alors vous, votre ensemble justement qui porte le nom Les Folies Françaises, c'est une musique que vous côtoyez depuis près d'une vingtaine d'années. Donc vous l'avez suivi, elle vous suit, mais par exemple un musicien qui ne possède pas les codes de cette musique, qui va aller chercher à la jouer, il est perdu?
Bah, au début, oui, je dois dire, même, je peux parler de mon cas, hein, les premières fois que j'ai joué ça, j'étais vraiment un peu... circonspect avec la musique, je savais pas trop quoi en faire parce qu'il fallait jouer très délicatement, mais en même temps il fallait donner quand même du corps à la musique. Donc en fait, je demandais au claveciniste que j'avais sous la main, joue-moi ça, parce que je voyais bien qu'eux ils en avaient joué beaucoup, c'était leur compositeur. Donc j'en ai écouté énormément, j'ai écouté toute l'intégrale de Christophe Rousset, voilà, qui a été paru il y a de nombreuses années maintenant, et qui est vraiment une référence, et donc ça m'a vraiment aidé. J'ai eu la chance de travailler avec Christophe, puisqu'il a été mon professeur de musique de chambre au conservatoire quand j'ai fait mes études, et après au sein de son ensemble. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation. Donc à partir de là, ça a été un de mes compositeurs français favoris. Mais je dis souvent à mes élèves, parce que j'enseigne beaucoup, jouer Couperin, travailler beaucoup Couperin, quand vous saurez jouer du François Couperin, vous serez enfin un vrai violoniste baroque.
Oui, puisque vous enseignez le violon baroque, c'est venu comment cette vocation, Patrick Cohen-Hacknin, puisque maintenant vous jouez exclusivement du violon baroque? C'est quoi, c'est l'amour du répertoire ou c'est l'amour de l'instrument ou les deux?
En fait, étonnamment, je pense que j'étais. Bon, d'abord, j'ai été très proche de Hervé Niquet qui m'a poussé à me mettre au violon baroque et qui m'a dit, tu te mets au violon baroque et tu seras le premier violon de mon ensemble. Voilà, donc ça a été.
Mais il y a pire comme proposition.
Oui, ça a été un des moteurs et Hervé m'a, voilà, a favorisé cette vocation et ce travail sur la musique ancienne. Après aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la tenue en fait et la technique ancienne. J'avais très envie de revenir à quelque chose de très naturel avec le violon. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la technique moderne, où en fait, on sait un peu, pour donner plus de force à son jeu, pour avoir plus de puissance, on a développé un jeu beaucoup plus ouvert. Ce qui je trouve un peu à contrario avec le physique de notre physique. Et donc ça m'a beaucoup intéressé, le travail avec le physique, avec l'instrument, et également le rapport très proche entre le violoniste et le danseur, notamment en musique en France. Et ça m'a passionné, parce que j'aime beaucoup la danse. Et donc dès la création des Folies, on a travaillé avec Marie-Geneviève Massé et la compagnie L'Éventail. Et ça a été un apport très important dans l'essor de notre ensemble.
Vous les retrouverez d'ailleurs cet été, vous allez donner ces œuvres de Couperin avec des danseurs.
Oui, je lui ai demandé exclusivement pour cette année 2018 de créer un ballet sur la musique de Couperin, exclusivement sur du Couperin. Donc elle a, avec son imaginaire, fait un très très beau ballet autour de Louis XIV, du Roi Soleil, danseur. Donc c'est très très joli avec trois tableaux. On retrouve le roi dans différentes, je dirais, phase dansée, par exemple au mariage forcé de Molière et Lully, il le faisait une bohémienne, donc il était travesti, donc il y a tout ce travestissement. On le retrouve autour du ballet de la nuit, évidemment en Apollon et en Roi Soleil. Donc c'est très joli, c'est très allégorique, ça nous transporte et la musique de Couperin n'est pas pour rien aussi dans la magie de ce spectacle. Et effectivement, on sera pour deux représentations à l'abbaye de Fontevraud en juillet et en août.
Dans cette abbaye, d'ailleurs, vous avez enregistré ce disque qui vient de paraître.
Oui, on a beaucoup de chance cette année. On a enregistré ce disque, on va y faire une académie du 9 juillet au 14 juillet. On y donnera un concert avec les membres des Folies. Et puis on avait invité Jean-Paul Fouché-Cour pour chanter et jouer, voilà, participer à cette académie avec nous. Et puis également, donc, on aura la danse quelques jours plus tard, le 20 juillet, pour ce Roi Danse, dans le cadre assez magique de cette abbaye royale.
Alors Patrick Cohen-Hacknin, justement, on parlait de l'instrumentation qui n'existe pas dans les partitions de François Couperin, mais quand on écoute ce disque qui s'ouvre par les Goûts réunis et qui se termine par le troisième concert royal, on est frappé par, enfin, comment le dire sans être maladroit, il y a une sorte de naturel dans la manière dont vous interprétez François Couperin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette musique, vous l'avez tellement jouée, vous la jouez comme une sorte d'évidence. Je ne parle pas des difficultés techniques, mais les tempi ont l'air de s'imposer d'eux-mêmes.
Oui, je pense qu'il faut l'avoir beaucoup joué. Donc, c'est vrai que moi, enfin, je pense avoir à tout travailler, ce qui est possible pour le violon, de cette musique. J'ai la chance de vivre avec une claveciniste, donc d'entendre aussi ces pièces au clavecin. Et c'est vrai que ça m'est assez naturel. Et les musiciens des Folies, on en a joué régulièrement. On a un tel plaisir à jouer cette musique. Je pense que quand elle est digérée, après, elle devient effectivement assez aisée. L'idée, c'est que ce soit fluide, que ça parle. En fait, il y a une rhétorique dans cette musique très forte. Et il faut faire passer cette rhétorique qui est extrêmement française, avec un goût, un raffinement, notamment dans la qualité des agréments qui sont posés. Donc, tous les coulées de tierces, pincées, ports de voix et autres tremblements. Donc, on y prête beaucoup d'attention. Et il y a un des musiciens au début de la séance d'enregistrement qui a dit, bon, à Anne-Laure Guittet, notre directrice artistique pour le disque et la productrice du disque, qui, attention, Anne-Laure, fais bien attention à ce que les ornements soient bien précis. Il faut faire la chasse aux ornements avant le temps. Et c'est vrai que c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que si on commence à ne pas être précis sur les ornements, la musique ne sonne plus. Elle perd toute sa précision et tout son affect. Et la beauté harmonique est un peu édulcorée.
Vous parliez de titres. Bien sûr, on est toujours frappé chez Couperin par la poésie des titres. Je ne parle même pas des Folies françaises ou des Dominos. Alors, c'est une œuvre exclusivement pour le clavecin qui est interprétée par Béatrice Martin dans ce, au cœur de ce disque, un pur chef-d'œuvre de bout en bout. Mais quand on lit les titres, la virginité sous le domino, couleur d'invisible, la pudeur sous le domino, l'ardeur, les vieux galants et les trésoreries surannées, il y en a bien d'autres, les coucous bénévoles. Enfin, c'est quand on. Alors, les titres, qu'est-ce qu'ils donnent aux musiciens? En fait, comment on joue à partir des titres?
Bah, c'est un caractère, hein, c'est un caractère donné, et je pense que on est inspiré, on réfléchit un peu à ce que Couperin a voulu nous transmettre. Il est très précis dans les titres, mais aussi dans les adjectifs, les adverbes qui sont présents, gravement, tendrement, modérément, et puis il donne deux caractères sur le même mouvement avec des virgules. Et on retrouve dans la musique les phrases avec les virgules. Donc en fait, quand je parlais de rhétorique tout à l'heure, il y a énormément de ponctuation dans la musique de Couperin. Et en fait, lui, il écrit comme s'il écrivait de la poésie, en fait. C'est de la poésie en musique. Et je pense que c'est ça qu'il faut ressentir quand on travaille cette musique de Couperin. C'est d'aller au-delà des notes et de la musique, mais se transporter dans un monde très poétique, et qui était l'imaginaire à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, notamment en France.
Vous parlez de ces indications modérément, etc., mais on n'a pas ça chez Bach, par exemple?
On l'a, mais moins. C'est moins précis à ce niveau-là. C'est vrai que même des fois, il met rien. Alors après, peut-être que la musique en elle-même parle de façon plus forte et que le rythme harmonique s'impose. Voilà, peut-être que Bach est peut-être un petit peu moins poétique. Je pense que la poésie de Bach, c'est à travers ses cantates et à travers les textes religieux. Et là, c'est vraiment un autre monde poétique avec une force de un pouvoir du mot que Bach essaye de transcender. Et donc, je pense que c'est là où il est le plus génial, évidemment, même si son œuvre instrumentale est extraordinaire.
Justement, l'année dernière, vous avez donné des œuvres pour clavecin et avec votre ensemble, avec trois clavecinistes, dont Béatrice Martin, Jean Rondeau et puis Benjamin Allard. Donc, trois premiers prix de Bruges, donc ce qui n'est pas rien. Le fait de jouer Couperin, est-ce que ça, quand vous jouez Bach après, il y a une influence ou alors je m'égare totalement?
Non, je pense que Couperin, si on veut le comparer à Bach, ce qui se rapproche, c'est le déroulement harmonique. Il y a une maîtrise de l'harmonie, des accords qui est formidable. Donc, mais tous les grands compositeurs, en tout cas ceux que nous on aime, c'est l'harmonie qui va nous guider. Donc François Couperin a cet art parce qu'il a aussi, il est issu d'une grande famille de musiciens et notamment d'organistes. Et c'est un des... Je dirais une des maîtrises, pouvoir écrire une fugue, pouvoir, même s'il n'en a pas laissé spécialement dans ses œuvres instrumentales, il y a des petites fuguettes, il y a du contrepoint en tout cas, mais ça ne l'a pas intéressé de nous laisser des préludes et fugues. Mais on voit aussi dans ses hommages que Couperin est peut-être plus intéressé par les styles italiens et français, par l'hommage qu'il a fait à Lully et à Corelli, et qu'il veut faire une synthèse de ces deux musiques, comme Jean-Sébastien Bach d'ailleurs, sauf que ils sont peut-être sur deux plans différents, et peut-être qu'aussi Couperin ne cherchait pas à aller dans la concurrence avec ce grand maître allemand.
Alors dans votre disque, il est très très varié ce disque, puisqu'il y a des œuvres orchestrales, encore une fois, des œuvres chambristes et des œuvres pour clavecin seul. Je trouve qu'il y a des sommets émotionnels, il y a notamment le Rossignol en amour, extrait du 14e ordre, troisième livre de pièces pour clavecin, qui est joué au clavecin et à la flûte. C'est d'une poésie aussi incroyable.
Oui, c'est François Couperin qui le propose. Il écrit cette pièce pour clavecin, puisque c'est dans les livres de pièces de clavecin. Mais ce Rossignol, évidemment... qui mieux que la flûte peut imiter le chant du rossignol. Et il le dit, il dit, si on a un bon flûtiste, il vaut mieux peut-être laisser la main droite au flûtiste pour rendre de façon encore plus poétique, encore plus évidente, tous les désagréments, tous les petits tremblements pour imiter le chant du rossignol. Et c'est vrai que il est en amour, ce rossignol, donc il est en verve d'ornement, et c'est très très joli à entendre à la flûte. Et il y a un double, en fait. Donc, les ornements qu'on peut entendre sur la reprise du Ce Rossignol d'un amour sont aussi de François Couperin, puisqu'il propose un double de ce Rossignol, donc pour aller encore plus loin dans cet art subtil de l'ornementation.
Alors, on n'a pas cité les autres musiciens, donc outre vous, bien sûr, au violon et à la direction, il y a François Poli au violoncelle, Benjamin Chénier, autre violoniste, Christophe Mazot au bois, Jocelyn Daubigné au traverso, André Henrich au théorbe et à la guitare, Christine Plubeau à la viole de gambe, et bien sûr, Béatrice Martin au clavecin. Donc, c'est des musiciens avec lesquels vous jouez tout le temps.
Oui, oui, le plus souvent possible. C'est vraiment le noyau et le groupe des Folies. Je sais que, et ça me fait très plaisir, c'est qu'ils ont eux-mêmes un grand plaisir à venir jouer. Ils ont eu un grand plaisir à enregistrer ce disque. On a une complicité, on a une rigueur commune. Encore une fois, certainement centré sur la personnalité de Béatrice. Le clavecin, c'est un instrument extrêmement rigoureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher avec le clavecin. C'est un instrument très, très précis. Et donc, qui demande aussi de s'investir musicalement dans les articulations. Et donc, c'est un grand plaisir de jouer avec cet artiste qui est Béatrice. Et donc, je pense que voilà, tous les musiciens ont plaisir à venir se greffer autour du clavecin. Et François Couperin est, comme on le disait au début, certainement le musicien le plus intéressant pour nous, parce que tout le monde est à l'honneur, tout le monde est à son moment et peut se mettre en évidence, mais toujours au service de la musique. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien de gratuit avec François Couperin. C'est une musique du cœur. C'est une musique forte au niveau de son écriture, de son équilibre. C'est pas pour rien qu'il adorait Corelli, qui était le maître de l'équilibre musical. Et je pense que dans ses œuvres, il recherche ça. C'est un équilibre parfait.
On va faire un détour par un autre de vos disques, qui est un peu plus ancien, mais c'est un disque que j'adore, donc je me suis permis de le ressortir. C'est un disque, vous êtes en violon solo aussi, paru chez Nomad Music il y a quelque temps, qui souffre par une passacaille de Bieber absolument sublime, avec un violoniste dont vous m'avez dit qu'il était très connu, l'époque Thomas Balzar, et puis après il y a deux Fantaisies de Telemann, et puis on termine par la deuxième partita de Bach, avec bien sûr la célébrissime Chaconne, mais qui fait écho en fait à l'œuvre de Bieber qui ouvre le disque.
Oui, c'était un peu l'idée de ce cheminement de Bieber à Bach. En fait, ce disque, il est très particulier et très personnel, parce que j'ai demandé à un luthier de me construire un nouvel instrument, et donc il y a travaillé au courant de l'année 2014, et j'ai reçu l'instrument en octobre 2014. Et j'ai pris quelques mois pour évidemment l'appréhender, et dès janvier j'ai enregistré ce disque. Ça faisait partie aussi un peu du challenge, c'est-à-dire d'avoir ce nouvel instrument et puis de m'enfermer un peu pour travailler des œuvres pour violon seul, ce que j'avais pas fait parce que l'ensemble m'avait pris beaucoup de temps, et aussi peut-être parce que j'avais pas l'instrument qu'il fallait. Et donc Bruno Dreux, pour le citer, luthier à Orléans, m'a fait ce très bel instrument, et je dirais ce très beau cadeau, parce que maintenant ce compagnon, ce violon m'accompagne pour tous mes concerts, et c'est avec lui que j'ai enregistré aussi le disque Couperin. C'est un très bel instrument qui me permet beaucoup de possibilités, et notamment dans ce cadre de violon seul, il faut avoir beaucoup de possibilités, il faut avoir une richesse de l'instrument, il faut avoir des graves vraiment solides pour porter je dirais toute l'harmonie et des dessus clairs et expressifs. Donc c'était un jeu de jouer ces pièces avec ce nouvel instrument.
Mais alors, quand vous êtes passé vous parliez d'Hervé Niquet qui vous a suggéré l'idée, mais quand vous êtes passé du violon que vous pratiquiez au violon baroque, il y a un travail considérable.
Ah oui, ça s'est pas fait en un jour, hein, ça c'est sûr. J'ai fait des études, puis j'ai pratiqué avec. J'ai eu la chance de pratiquer avec de grands musiciens, de très bons musiciens. Je parlais tout à l'heure de Christophe Rousset, évidemment avec Hervé, avec lequel j'ai passé quand même plus de 10 ans au sein de son ensemble. Mais j'ai eu la chance de conduire en tant que premier violon les Talents Lyriques, les Arts Florissants. Donc c'est vrai que c'est des grands, grands chocs. De jouer avec Philippe Pierlot, de jouer de façon très proche avec Enrico Gatti, qui a été aussi un maître et quelqu'un qui m'a beaucoup influencé au niveau du violon. voilà, donc de créer les folies, de travailler avec Béatrice. Donc voilà, ça a été tout un cheminement. Mais je dis à mes élèves souvent, je me suis senti bien au bout de 10 ans. Voilà, au bout de 10 ans, avoir commencé le violon baroque, tout d'un coup, je me posais plus la question si c'était un violon baroque, c'était un violon avec lequel j'ai joué de la musique du 17e et du 18e siècle, avec plaisir et sans contrainte. Voilà. Mais il a fallu ces 10 ans pour retrouver aussi un naturel, une facilité, une évidence de jeu qui est au cœur de cette musique baroque. Ce qui est beaucoup plus développé aussi, c'est toutes les facultés de la main droite pour justement articuler. Et le clavecin est un très bon exemple pour nous. Comment articuler, pourquoi articuler, et c'est vrai qu'il ne faut pas, j'allais dire, tartiner avec son archet, mais être très présent et former le plus de consonnes possible, avoir le plus de couleurs possible au niveau de la main droite. Et ce n'est pas pour rien qu'on prend l'archet avec la main droite, c'est parce que c'est tout le cœur de notre travail et la richesse de notre jeu.
Alors pour revenir à ce disque consacré à François Couperin, qui s'ouvre par le 8e concert dans le Goût Théâtral, les goûts réunis, et puis après il y a des œuvres pour clavecin, puis après on va retrouver l'ensemble. Vous l'avez construit comment ce disque ? C'est-à-dire vous avez tout enregistré, puis après vous vous êtes demandé dans quel ordre vous alliez tout mettre, ou alors dès le début il y avait une idée de construire le disque de cette manière ?
Ah non, c'était construit tout de suite. il fallait d'abord choisir les pièces, ça c'était le plus difficile, parce qu'en fait on aurait pu faire deux ou trois disques, mais on a décidé de faire un album, et un portrait croisé, donc il fallait prendre des sélections. Bon, il fallait quand même qu'il y ait quelques pièces en global, donc c'est le cas effectivement du concert, du 8e concert dans le Goût Théâtral, qui fait partie des Goûts Réunis. C'est le cas du 3e concert royal qui clôt l'enregistrement pour faire un hommage évidemment à Louis XIV et à cette période, la première période de François Couperin à la cour de Versailles. Après, un extrait des Nations, parce que c'est aussi important, c'est un ouvrage très important. Les Folies Françaises devaient être présentes, le clavecin devait être présent. Bref, on a essayé de faire des choix de pièces et de construire l'enregistrement comme un parcours, comme une idée. Alors évidemment, voilà, le Goût Réuni, le 8e concert, comme il commence par une ouverture, ça nous a paru évident de le mettre au début. Et ce 3e concert qui clôt avec une chaconne, bah, c'était aussi aisé de le mettre à la fin. Et donc après, c'est un parcours de tonalité aussi. C'est une pour que l'oreille soit conduite d'harmonie en harmonie.
François Couperin, c'est quand même un compositeur, contrairement à d'autres, qui a jamais vraiment quitté le... Enfin, qui a quand même continué à être joué. C'est même Brahms, je crois, qui a fait rééditer à la fin du 19e. C'est quand même un compositeur qu'on a pu suivre. Bon, il y a des compositeurs qu'on redécouvre totalement aujourd'hui, mais lui, il n'a jamais vraiment quitté la scène, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que ça a été un compositeur un peu modèle pour nos grands Français de la fin du 19e siècle. Couperin, mais évidemment Rameau, bien sûr, puisqu'il y a eu une monumentale édition sous la direction de Camille Saint-Saëns, Vincent d'Indy, enfin, beaucoup de compositeurs sont penchés. Mais bon, on a quand même ce tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Le tombeau, c'était toujours, à l'époque baroque, un hommage à un disparu. Bah, il a voulu rendre hommage à François Couperin. Il a pris même un extrait, un thème d'une de ses pièces pour que ce soit encore plus fort. Donc, non, je pense que Couperin était connu et aimé de nos compositeurs, et je pense qu'il cherchait aussi une personnalité forte. Je pense que c'était une personnalité forte. Il s'appelait, voilà, on lui donnait comme surnom Le Grand, pour le différencier peut-être d'autres compositeurs de sa famille. Mais c'est vrai qu'il était grand par son œuvre qu'il a laissée. L'œuvre a été très bien éditée, donc aussi elle était disponible très facilement. Je pense qu'ils se sont amusés, tous ces compositeurs pianistes, à jouer ces pièces, à ressentir un peu cette musique et ces couleurs du grand siècle. Et voilà, ça les a inspirés.
On parlait de couleurs et d'instrumentation. Par exemple, là, vous vous retrouvez avec des musiciens avec lesquels vous jouez depuis longtemps. Mais vous pouvez vous retrouver dans d'autres circonstances, être contraint d'adopter une autre instrumentation. C'est possible, ça ?
Vous voulez dire
sur les œuvres que vous interprétez sur ce disque ?
Ah oui, bien sûr. Des fois, pour un concert, on n'a pas tout l'effectif et donc on modifie l'instrumentation. C'est pas un problème. Par exemple, le ballet qu'on fait, on est juste que 4 musiciens. Et il y a Christophe Mazot qui joue du hautbois et de la flûte à bec. Donc en fait, de temps en temps, il alterne entre le hautbois et la flûte à bec. Mais là, sur le disque, c'est un peu plus riche parce qu'on a et le traverso et le hautbois qui peuvent jouer en même temps. Voilà. Non, c'est plutôt intéressant parce que cette musique baroque, elle est très modulable. On ne perd pas en force en changeant l'instrumentation. C'est plus ou moins riche, c'est plus ou moins coloré, ou c'est coloré différemment. Et ça, c'est assez intéressant et peut-être unique dans l'histoire de la musique.
Puis alors moi, en tant qu'auditeur profane, entre guillemets, il y a quand même quelque chose qui me frappe dans cette musique, c'est la beauté des thèmes, quoi. Il y a un sens mélodique et thématique magnifique, quoi. Il y a des œuvres absolument bouleversantes, même enfin pour le clavecin ou même les œuvres pour orchestre, il y a à chaque fois des thèmes incroyables.
Oui, il y a une richesse effectivement thématique. En fait, je pense que le fait de composer au clavecin l'inspire beaucoup. Il a évidemment tout l'art de l'improvisation puisqu'il est organiste. Donc en fait, quand il laisse courir ses doigts sur le clavecin, je pense que c'est infini les possibilités qu'il peut produire. Il n'est pas du tout un compositeur laborieux à la table avec son crayon, pas du tout, du tout. Je pense qu'il est au clavecin et que la musique lui coule du fait du contact de ses mains sur le clavier. Et donc ça, ben voilà, c'est très prolixe. Alors il y en a des pièces de clavecin, il y en a 4 livres, c'est je sais pas combien d'heures de clavecin. Enfin, si je me souviens bien, il y a 12 disques de Christophe Rousset pour faire l'intégrale des pièces de clavecin. Et donc non, non, c'est effectivement une richesse. Et une finesse, c'est la musique aussi très galante, très très raffinée, donc toujours voilà, comme je le disais, un plaisir de la travailler et de la présenter au public.
L'ensemble Les Folies Françaises, Patrick Cohen-Hackney, sera en Israël en novembre pour interpréter une œuvre de Charpentier, David et Jonathan, donc avec des musiciens israéliens.
Oui, j'ai déjà été diriger cet ensemble qui s'appelle Barocade. Et qui est basé à Tel Aviv. C'est un ensemble de musiciens israéliens qui ont pour la plupart fait leurs études en Europe, à Bâle, à la Scola, au conservatoire de La Haye par exemple. Et ils sont très inventifs dans leur programme. Ils ne connaissent pas très bien la musique française, donc c'est vrai que un des programmes que j'avais fait avec eux, j'avais joué du Rameau, enfin on avait joué du Rameau ensemble, et ils étaient très heureux de découvrir cette musique. Là, ça va être aussi le cas avec David et Jonatas. Ce concert, enfin ces 3 concerts se placent sous l'égide de l'année franco-israélienne, l'échange culturel. Et donc, je trouvais vraiment intéressant de faire évidemment David et Jonathan. Une œuvre évidemment biblique, leur histoire, une œuvre de Marc-Antoine Charpentier. Et on va faire des extraits, donc il y aura juste 3 chanteurs qui représenteront David, Jonatas et Saül. Et puis il y aura un chœur israélien. Ça sera aussi l'occasion d'échanges au niveau de la lutherie, parler de la lutherie française à cette époque-là. Il y a un luthier israélien qui a aussi construit des instruments, une base de violon, viol de gambe, des violons. Un archetier aussi qui joue lui-même le théorbe au sein de l'ensemble. Enfin, c'est assez intéressant au niveau de l'échange culturel. Donc ce sera au mois de novembre, les concerts 14, 15 et 17 novembre à Tel Aviv et à Abou Gosh, près de Jérusalem.
On va revenir à ce disque, Les Folies Françaises, qui vient de paraître pour Nomade Musique. Donc là, c'est monothématique, puisque c'est consacré exclusivement à François Couperin. Et puis, vous donnerez cet été aussi ses œuvres avec un ballet. Mais on vous dit dans un concert que vous jouez du François Couperin et que vous devez jouer un autre compositeur. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec cette musique?
Ah ben on peut jouer beaucoup de musique, notamment par exemple de la musique italienne, puisque ou du Corelli, il y a cette apothéose de Corelli. Je pense qu'il est très révérencieux face à ce grand compositeur, donc c'est intéressant de les mettre en rapport. Lully, bien sûr, parce qu'il y a aussi une apothéose de Lully, mais on peut très bien aussi jouer autour des nations et jouer l'impérial et jouer de la musique allemande et la musique de Telemann, qui était un féru de musique française, ou de la musique de Bach, où il y a beaucoup d'œuvres aussi qui sont avec cette influence française, peuvent être intéressants de mélanger. Après, on peut aussi mettre de la musique vocale, y glisser des cantates, alors plutôt françaises, mais pour illustrer, puisque Couperin, à part les Leçons de ténèbres, ne nous a pas laissé beaucoup d'œuvres vocales. Donc, et les. Il y a quelques motets aussi, mais. Donc, voilà, ça peut être intéressant de mélanger avec quelques œuvres vocales de cette période.
En tout cas, si on veut un portrait de François Couperin, parce que ce disque, il est quand même très complet, parce qu'on a des disques de clavecin ou des disques de musique de chambre ou des disques pour orchestre. Là, vous mêlez les trois, enfin, c'est vraiment. En même temps, comme je le disais, qu'un portrait de votre ensemble, les Folies Françaises, et des musiciens qui en sont les interprètes, c'est un portrait de François Couperin. Vous disiez que vous auriez pu faire deux ou trois autres disques. Je ne parle pas des regrets que vous pourriez avoir, mais il y avait des œuvres aussi qui vous étaient aussi chères et que vous avez été... Parce que là, le disque, il dure 1h10 déjà, donc il est très dense. Il y a des choses auxquelles vous teniez énormément et puis vous avez été contraint de mettre de côté.
Oui, notamment l'Apothéose de Lully. Mais bon, elle est très longue, donc en faire des extraits, j'y ai pensé, mais après je me suis dit, c'est peut-être un peu dommage, ce sera peut-être l'occasion d'un autre disque, pourquoi pas autour de Lully, avec cette apothéose de Lully, ça serait une bonne idée de faire entendre aussi la musique de Lully, il y a des belles pièces pour les couchers du roi en trio, et puis évidemment des œuvres orchestrales, voilà, c'est là le petit regret. Après, non, il n'y a pas de regret parce qu'il faut, voilà, faut faire un choix. Et puis, je pense qu'aussi, il faut faire un choix assez dynamique parce qu'il faut que l'auditeur, je dirais, ne s'ennuie pas et découvre aussi certaines pièces. Je pense qu'il y a peut-être des pièces que l'auditeur ne connaissait pas, notamment ce grand concert dans le goût théâtral. Il n'est pas si connu que ça. Il est très varié, très intéressant à orchestrer.
En tout cas, c'est un disque absolument splendide, et puis c'est vrai que c'est fascinant, et puis c'est magnifique, et on a le sentiment d'entrer dans cet univers, et bien sûr, on a envie de continuer à entrer. Et donc, je rappelle aussi ce disque que j'adore, donc je m'étais permis de l'évoquer aussi, Patrick Cohen à CNIL, où vous êtes en violo solo, Bieber, Baltzar, Telemann et Bach. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Bah, je vous remercie beaucoup de l'invitation, et puis à une prochaine fois.